Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Ketubot et Daf Ein Tet à la 11e ligne. Métivé, on était en plein milieu d'un sujet. Une femme qui veut protéger ses biens de son mari, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que son mari se les approprie, elle avait une solution, c'est de faire don de ses biens. Dans l'histoire qu'on avait vue, elle avait fait don de ses biens à sa fille. Arotse, je t'abrère, nechassia, mibal. La Braïta nous dit que si elle veut éloigner et sauver les biens de son mari, qu'est-ce que ça, comment est-ce qu'elle le fait, Ketubot Shtar Passim? Elle va écrire un Shtar Passim. Passim, c'est Piyusim, c'est-à-dire elle va essayer d'amadouer les acherim, c'est-à-dire leur dit, bon, c'est, prenez propriété de ses biens, mais c'est que pour protéger ses biens de mon mari. Donc c'est ce qu'elle va faire. De faire un shtar comme ça, c'est très mauvais, parce que l'autre va un jour lui dire, mais tu m'as donné ses biens. Donc c'est un danger pour elle. Elle lui écrit, je te les donne momentanément, c'est-à-dire aujourd'hui, ou les chercher jusqu'à ce que je veuille. Donc pour l'instant, ils sont à toi, mais quand je voudrai, je les récupère. On voit donc que la solution proposée, c'est seulement elle donne un cadeau avec un shtar où c'est écrit de manière momentanée. Ah, lave katvelachi. Mais si elle lui écrit pas comme ça, donc si elle lui écrit un shtar, kanani lokar, celui qui a reçu, c'est bien, on est propriétaire. Et donc dans l'histoire de Shmuel, Shmuel nous a dit on peut déchirer le shtar. L'histoire de Rav Nachman, de Shmuel, on peut déchirer ce shtar. Pourquoi est-ce qu'on déchire? Il en est propriétaire. Amar Bizera, Habekula, Habemiktata, ça dépend. Quand elle lui fait don de tous ses biens, elle n'a pas besoin de préciser. On sait pertinemment que personne ne va donner tout ce qu'il a. Et donc, on sait très bien que c'était simplement une façon de détourner l'appât du gain du mari. C'est-à-dire de lui dire, de toute façon, ses biens ne sont pas à moi. Mais si elle lui a écrit qu'une partie des biens, il est tout à fait plausible qu'elle donne une partie de ses biens à une personne. C'est pour cela que dans ce cas-là, il faut qu'elle se protège en écrivant, je te les donne de manière momentanée. Demande la Gemara, je comprends pas comment marche cette solution, Bichlal. Veilo knani lokear, nikinu baal. Arrête, tu es en train de me dire que ce shtar n'a aucune valeur. On peut le déchirer. Que celui qui a reçu ses biens n'en est pas propriétaire. Donc au final, c'est elle la propriétaire. Si c'est elle la propriétaire, c'est donc son mari qui va se les approprier. Marabaya, sou, kenechasim, chenedim, labal, valibale, abshimen. Le fait de faire ce shtar qui va soi-disant le donner à quelqu'un d'autre, c'est en fin de compte, donner au mari, créer une situation comme si c'est des biens qui, pour le mari, ne sont pas à portée de main. Comme on a vu dans la Mishnah d'après Mishnah, les terrains qui n'étaient pas à portée de main, ceux qui étaient en fait sur la rette, bon, c'est quelque chose de lointain sur lequel il est mis tièche. Là aussi, c'est une façon de lui faire baisser les bras, et donc, il n'en est pas propriétaire. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé de cas où la femme avait reçu des biens, comment est-ce qu'on va gérer, dans quelle période elle a reçu, et qu'est-ce qu'elle a le droit de faire quand elle a ces biens qu'elle a hérités. La foule que ça finit. Si elle n'a pas reçu des biens, mais de l'argent. Et la carte d'un carca veut offrir que la règle est que le mari a le droit d'utiliser du fonds de bien de sa femme. Quand c'est de l'argent, on va acheter un bien immobilier et le mari pourra profiter de l'usufruit, mais ne pourra pas utiliser l'argent lui-même et le dépenser. Cet argent n'est pas à lui. On a été métaken, un droit sur ce bien, mais pas d'utiliser, de terminer, de finir le bien. C'est pour cela que on va acheter un terrain qui va lui-même créer de l'argent. Cet argent sera donné au mari, mais le bien sera protégé pour la femme. Si jamais ils ont, dans le cas d'un champ fruitier, par exemple, il y avait des fruits, donc la récolte, tout ça, c'est défini comme de l'argent. Avec cet argent, on va acheter un terrain et on va, de l'autre, le mari va utiliser les fruits et la femme retrouvera ses biens le jour où il décède ou il divorce. Si elle a reçu un bien avec des fruits, et dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce que la définition de ces fruits sont définis comme le terrain, c'est-à-dire comme étant sa propriété à elle, ou sont définis comme de l'argent, et donc il faudrait les réinvestir Amarabi Meir, Shami nota kama hiyafa beperot ve kama hiyafa beloperot. On va faire une évaluation de ce terrain. Combien il vaut avec ses fruits, combien il vaut sans ses fruits. Ou motar, et la différence entre les deux. Donc ça va être défini comme inakar ben karaka, ça va être défini comme de l'argent liquide vehu ochel perot. Donc il va utiliser cet argent pour acheter un terrain pour pouvoir profiter de l'usufruit. Achamim Rim, eux nous disent que perot et makorim la karaka shelo. On définit qu'ils sont à lui puisque ils ont une définition de karaka. Elle a son keren qui est là, c'est-à-dire son le keren, c'est le. Bon, on va retrouver le mot. Puisqu'elle a son keren qui est là, le karaka est là, donc elle a sa part à elle qui est là. Le mari peut utiliser le ret. Vet louchin mi la karaka shela. Si c'est des perrottes qui sont louchin mi la karaka shela. C'est-à-dire que, comme on l'a dit précédemment, des fruits qui sont, ne sont pas attachés au sol, eh bien, on va les vendre, acheter avec cet argent un terrain, via karben karaka pour le perrotte. On va acheter donc un terrain et il pourra utiliser les fruits. Mishima nomer, makom sheyafe kocho bekinisata. Si c'est lui qui a plus de force, bekinisata, au moment du mariage, aura kocho beitsiata. C'est elle qui aura plus de force à la sortie, au divorce. Makom sheyura kocho bekinisata. Si c'est lui qui a moins de force quand elle est rentrée, yafe kocho beitsiata. Eh bien, c'est sa force qui sera plus forte, beitsiata. La Mishnah explique, ketsab. Perot amechubarim la karaka. Des fruits qui sont attachés au sol. Bekinisata, ils sont définis chez l'eau. On les définit comme étant un karaka. Mais beitsiata, c'est là. Si jamais, quand il divorce, elle doit récupérer son terrain, et le terrain est plein de fruits, on les considère comme faisant partie du terrain. Donc, atkama que tu le considères comme terrain. Et donc, c'était à lui. Aujourd'hui, elle récupère son terrain, elle récupère les fruits avec. Par contre, mais, tlushin mina karaka, ceux qui sont, ne sont plus attachés au sol. Donc, bekinisata, c'est là. On considère qu'ils sont à elle. Ils ne font pas partie du, ils font pas partie du terrain. C'est comme si elle avait de l'argent. Faut les réinvestir. Bekinisata, c'est l'eau. À ce moment-là aussi, quand on les considère comme n'étant pas attachés au sol, comme étant de l'argent, on les considère comme des perrottes, et donc ils sont à lui. La Gemara nous dit que dans les cas où on doit vendre et acheter quelque chose, pshita, il est évident que s'il y a une discussion, qu'est-ce qu'on achète? Ara ou bate, terrain ou maison? Ara, il vaut mieux acheter un terrain. Pourquoi? Parce que le terrain s'abîme moins, alors que la maison peut s'abîmer. Bate vedikle, si on a un choix entre une maison et des palmiers. Bate, il vaut mieux acheter des maisons, puisqu'on gagne plus, puisque les arbres risquent de s'assécher. Dikle, il vaut mieux. On a le choix entre des palmiers et d'autres arbres. Dikle, il vaut mieux les kalim, ils s'abîment moins. Il a néovégoufné des arbres ou une vigne, il vaut mieux des arbres qu'une vigne, puisque la vigne s'abîme plus facilement. Donc, on parle d'un cas où on va réinvestir l'argent, et la question c'est de savoir dans quoi. Discussion entre le mari et la femme. Eh bien, on va toujours essayer de protéger le kerem. L'argent qui est l'argent de départ, c'est ça le kerem, j'ai oublié comment on dit ça en français. Et donc on va prendre ce qui est le plus profitable pour les deux. Abba Zardeta, si elle avait une forêt d'arbres aubépines, d'arbres d'aubépines, et ces arbres là, on les utilise pour couper des branches ou pirate des cavrés, ou alors elle avait une piscine où on fait grandir des poissons. Alors la question c'est de savoir, est-ce que ces morceaux de bois, est-ce que ces poissons sont définis comme keren ou sont définis comme perot? Amrela pere, il y en a qui dit qu'on les définit comme perot, c'est-à-dire que c'est le mari qui en profite et il fait ce qu'il veut avec, et puis même s'il termine tous les poissons de la piscine, eh ben tant mieux pour lui, puisque le keren est toujours présent, la piscine, le terrain est toujours là. Amrela karna, il y en a qui disent qu'on définit ça comme karna, c'est-à-dire comme si c'était le keren lui-même, puisque quand je vais couper ces bois ou quand je vais utiliser ces poissons, ils vont disparaître. Et donc, ces choses-là vont être définies comme du keren, comme on va le voir tout de suite, klala de milta, gizo machlif, tout ce qui est, si on l'utilise, il repousse, comme par exemple un tronc d'arbre, même si je coupe du bois, mais le tronc lui-même va rester. Par contre, les branches elles-mêmes, si je les ai coupées, c'est fini. Alors, on le définit comme Pera, tout ce qui va pousser de ce tronc d'arbre sera défini comme perot. Mais, et donc, perot, tout le temps du mariage, ils sont mariés. En guise machlif, si jamais le tronc ne se change pas, c'est-à-dire que c'est s'abîme, c'est-à-dire quand tu l'utilises, c'est khat pehami, tu l'as utilisé, c'est fini, karna, c'est défini comme kerem. Amarabizera, amarabioshaya, amarabianaï, vamrela, amarabiaba, amarabioshaya, amarabianaï. Donc, la chéla, c'est, est-ce que ça a été dit au nom de Rabbi Abba ou au nom de Rabbi Zera? Vlad behemat milug meshalem tashlumei kefel laisha. On passe à un autre sujet. Une femme qui avait un bien, c'était quoi son bien? Elle avait une vache. Et cette vache a bien un petit. Et cet animal a été volé. Alors le voleur a été attrapé. Il doit payer le kefel. Il doit payer le double. Alors il doit le payer à qui? Meshalem tashlumei kefel laisha. Il le paye à la femme. Demande la Gemara. Si tu dis que ça c'est défini comme tu dois le payer à la femme, ça voudrait dire qu'on définit cet animal comme étant un keren et non pas un prix. Il y a le bien lui-même et il y a l'usufruit. Si tu dis que le bien, on sait très bien que l'usufruit appartient au mari et le keren à la femme. Si tu dis que le kefel doit être payé à la femme, ça voudrait dire que tu définis cet animal comme étant un keren. Et comme on va le voir tout à l'heure, l'idée c'est que la mère peut mourir, la vache peut mourir, et donc la seule chose qui resterait de ce bien à cette femme-là, c'est ce petit. Et donc, c'est pour ça qu'on le définit comme keren. Keman, lo kerabanan ve lo kechananya. Ça va à l'encontre de deux tanaïm, que l'on connaît des tanya. Il est marqué Vlad Behemat Miloub. Donc c'est vraiment notre chela. La Baal, on le définit comme appartenant à Marie, donc on le définit comme pri. Vlad Shifrat Miloub. Par contre, si c'est l'esclave né d'une esclave, ça appartient à la femme. La Gemara expliquera la différence dans un instant. Vachanania ben Achi Yoshaï Amar, Asu Vlad Shifrat Miloub, Kevlad Behemat Miloub. Et on les définit comme étant au mari. Donc, les enfants qui vont naître, que ce soit les enfants des esclaves ou les petits des animaux, on les définit comme étant des pérotes. Si on les définit comme étant des pérotes, ça appartient au mari. Si ça appartient au mari, le voleur qui doit aujourd'hui payer Kefel, devrait payer Kefel par rapport à son propriétaire, c'est-à-dire au mari. Donc, question sur ce qu'on a vu au nom des Emoraïm, qui eux disaient qu'on devait payer le Kefel à la femme. Je pourrais t'expliquer ma halakha d'après tout le monde. Pera takinu le rabanan. Pera de pera lo takinu le rabanan. Ce qu'on a donné au mari, c'est pas qu'on lui a donné une propriété absolue. On lui a donné un droit. Ce droit, c'est l'usufruit. L'usufruit de l'usufruit, pera de pera, on lui a pas donné. C'est vrai que si jamais il a investi, il a acheté des terrains, ces terrains rapportent de l'argent, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent. On va pas appeler ça pera de pera, puisque c'est le résultat, c'est l'usufruit de l'usufruit, c'est bon. Mais quand c'est l'usufruit qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire un kefel, c'est pas lié à ton investissement, c'est lié à rien du tout, c'est quelque chose qui est venu de manière indirecte dans ce cas-là. Puisque je ne te définis pas comme propriétaire, mais seulement comme ayant un droit dessus, donc ça, je t'ai pas donné le droit. Donc c'est pour ça que ça appartient à la femme. Maintenant, Agma revient sur la braïta. Bishlama le Chanania. Chanania qui nous dit qu'on fait pas de différence entre l'esclave né d'une esclave, ou le petit né d'un animal. D'après Chanania, Hayenu de Lochaishina Limita, il te dit, moi, je regarde la mère comme étant le kerem, et donc l'enfant comme étant le fruit. Qu'est-ce que tu me dis? Peut-être que la mère va mourir? C'est pas quelque chose que je prends en considération. Mais d'après Rabbanan, si vous pensez que Ichaishina Limita, si c'est suffisant, ce risque, pour définir ce qui reste aujourd'hui comme étant le kerem, cet enfant devrait toujours être défini comme keren. Mais ici, l'oreille limita, s'ils prennent pas en considération le risque de mort, ça devrait être pareil pour tous, c'est-à-dire quelle différence entre un esclave et un animal? Pourquoi est-ce que, au sujet de Vlad Behema, vous pensez que c'est pour le mari, c'est-à-dire qu'on considère comme étant usufruit, ça voudrait dire que vous prenez en considération le risque de la mort de la mère, alors que Vlad Shifrat Miloub, vous pensez que ça appartient à la femme. Je l'ai demandé à l'Olam Reishel Mita. Behemet, il y a un risque qu'il meure. Puisqu'il y a un risque qu'il meure, le keren risque de disparaître. Donc, ce qui va rester du keren, l'enfant, que ce soit animal ou humain, il va lui être défini comme keren. Ah, alors pourquoi est-ce que vous faites une différence? Sha'ane Behema de Kaora. Même si l'animal meurt, il y a toujours quoi faire avec la carcasse de l'animal. Il y a la peau. Il y a tout ce qu'on fait avec une carcasse animale. Donc, le keren de la femme est toujours présent. C'est pour cela que l'enfant qui va naître de cet animal, je le considère comme un fruit, comme un perot, comme un usufruit, et non pas comme étant le keren, puisque le keren est protégé, même si beaucoup moins que sa valeur, mais il y a toujours quelque chose. Amar Abuna Bachia Marshman Alcha Kechanania Alcha Kom Chanania, c'est-à-dire que le mari a le droit d'utiliser. Hanania nous avait dit qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que dans tous les cas, on considère l'enfant qui va naître comme usufruit. Bien qu'on considère tout comme usufruit. Modé Hanania, Shemit Gersha, Renotelat Enamim, Venotaltal, Neshevach Betavia. C'est vrai qu'on lui a donné le droit sur l'enfant qui va naître, mais il est d'accord que Imnit Gersha, si jamais il divorce, Notenet Damim, si la femme veut payer pour récupérer les enfants, Venotaltan, Nipne, elle va les prendre pour les donner à sa chifra, Nipne Shevach Betavia, puisque c'est un cadeau qu'elle a reçu de son père. Donc pour elle, c'est important. Donc elle a le droit, et on verra dans les bichotes à venir, qu'elle a un droit de dire, c'est vrai que tu avais certaines propriétés dessus, mais je peux les récupérer. Marwa 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 Ichnisalo ez lechalva. Rachel legizata, tarnegolot legizata. Si elle lui a donné un animal pour en profiter du lait. Ou alors pour en profiter de sa laine. Ou alors pour une poule pour ses œufs. Dès qu'elle est perotav, un arbre qui donne des fruits. Rachel voler hachetek la kerem. Il peut utiliser cet arbre jusqu'au bout, c'est-à-dire l'amortir jusqu'au bout, puisque, au final, il restera toujours quelque chose. Toujours, il restera quelque chose. Même si la tarnégolette, elle fait plus d'œufs, bon, tu peux toujours en profiter. Même si elle fait plus de lait, toujours une possibilité d'être chochet au tard. Et même si elle meurt, il restera toujours la carcasse. Donc, t'as toujours quoi faire. Amar Nachman, aïle l'églima. Si elle lui donne aussi un habit. Eh bien, Pérave, c'est quoi l'utilisation? Mekasebe vasi adekaya. Il peut l'utiliser, mettre, porter cet habit, même s'il va s'abîmer au fur et à mesure, puisqu'au final, il restera toujours quelque chose. Donc, vous l'avez compris, la différence entre le keren et le prix, c'est que le keren, c'est ce qu'il va rester, de ce qu'elle a donné, et le prix, c'est ce qui va en découler. Donc, toi, tu as le droit d'utiliser le prix, tu as le droit d'amortir jusqu'au bout, même si au final, le keren, il va s'abîmer, à condition qu'il reste du keren. Si ton utilisation fait qu'il ne reste plus rien, ça ne définit donc c'est ton utilisation, c'était dans le fruit, dans l'usufruit et non pas dans le keren de la chose. Dans ce cas-là, tu ne peux pas l'utiliser de telle manière. Keman, comme qui irait cet enseignement de Rav Nachman, comme il est marqué. Amelach, celle qui a reçu un droit de prendre du sel de la mer. Rachid nous dit qu'il y avait sur les bords de mer, il y avait un endroit où il y avait du sable qui ondulait et puis l'eau venait se poser là-bas. Et avec le soleil, l'eau s'évapore et le sel reste là-bas. Véachon, si elle a une mine, si on peut appeler ça une mine, de sable, c'est-à-dire un endroit, elle a un droit de prendre du sable d'un endroit. Donc, arézé, perot, on l'a défini comme perot. Parce que combien même tu utiliseras le sel ou le sable, il y en aura toujours. Et donc, ce que tu utilises n'abîme pas le keren, c'est pour cela qu'il est défini comme keren. Par contre, pirechel gofrit, si elle a un droit sur un endroit de rechercher du soufre, ou alors marporet shel tsarif, c'est un endroit aussi où on utilise une certaine matière qui aidait à colorer les tissus. Rabbi Meir Omer, on le définit comme keren et non pas comme peret. Keren non pas comme perot, pourquoi? Parce que ce que tu vas utiliser, ben, il en restera plus. Ah, il va rester le terrain, et donc le but de cette chose n'existe plus. Alors que Chachamim nous disent que perot. Pourquoi? Parce qu'il te restera toujours le terrain lui-même. Et donc, c'est pour ça que, et c'est là la marloquette, et donc ce qu'on avait vu, au nom de Rav Nachman, qu'à partir du moment où il reste quelque chose, on définit que tu as gardé le keren, ça va d'après Chachamim, qui nous disent que, à partir du moment où il reste quelque chose, eh bien, on définit ton utilisation comme perot. Rabbi Shimon Omer Makom Shafe Koko. Rabbi Shimon nous a dit que la définition que tu donneras aux fruits attachés, ou détachés à l'entrée, c'est-à-dire au mariage, ça sera cette même définition qu'on donnera au divorce. Demande la Gemara, Rabbi Shimon Ayun Tanakama. Rabbi Shimon rejoint les paroles de Tanakama, puisque les deux sont d'accord que tout ce qui est attaché au sol sont définis comme appartenant à Marie. Amarava, Mechobarim, Meshat, Etia, Ekabelaïm. La marloquette, elle est dans des fruits qui sont attachés au sol au moment du divorce. D'après Chachamim, puisqu'ils ont poussé sous sa tutelle, on les considère comme étant les siens. D'après Rabbi Shimon, on les considère comme faisant partie du terrain. C'était ça son chidouche. Et donc, ça lui appartient à elle. Elle les récupère au moment du divorce. Naflula, Avadim, Oshfachot, Skelim. Si jamais, on nous dit la Mishnah, elle a reçu des esclaves qui sont âgés, qui risquent de mourir. Yimachou, Vilakar, Mem Karka, Veochel Perot. Sachant que, il risque de ne plus, de plus rien avoir. Donc, il est plus intelligent. Il peut forcer la femme à lui dire, écoute, si on les vend pas, on n'aura rien. Il peut la forcer à vendre et utiliser après le terrain, le bien immobilier pour l'usufruit. Ashbagomer Lotimkor, elle n'est pas obligée de le faire. Pourquoi? Il venait chez M. Shevach Betavia. Puisque pour elle, de les garder, c'est un kavod pour elle et pour sa famille, elle a le droit de les garder. Pareil, la flora zetim ukfanim skenim. Elle lui a donné des vieux arbres, que ce soit des oliviers ou que ce soit des vignes. Imachou vilakech ibrahim karaka. Il faut les vendre et acheter un terrain, vu ochel perot. Et lui va consommer les usufruits. Rabbi Omer, Lotim Kora ne les vend pas, mais pne shehen shevar betavia, encore une fois pour la même raison. C'est-à-dire, elle peut s'opposer à la vente, bien qu'il y ait une raison logique, mais il y a aussi une autre raison de dire je ne veux pas vendre, parce que c'est mon kavod à moi, donc elle peut ne pas vendre. Amarav kana amarav machloket shenaflu besade shela. Aval besade shena shela divrakol. Tim Kor mishum di kakalia karna. Toute la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est seulement quand elle a reçu un terrain avec ses arbres. Et donc, puisqu'elle a reçu un terrain avec des arbres, il restera toujours quelque chose. Aval besade shena shela. Si de toutes les façons, les arbres vont s'abîmer et après, tu n'auras plus rien ici, puisque le terrain ne t'appartient pas, l'hiver à quoi? Tout le monde est d'accord que Tim Kaur, qu'elle sera obligée de vendre, elle ne peut pas empêcher en disant c'est le caveau de ma famille, je me déclare à la carne, mais quel caveau de ta famille? Dans 2 semaines, il n'y aura plus rien ici. Donc, cet argument que tu as qui peut me bloquer, dans ce cas de figure, ne peut pas me bloquer. De toutes les façons, il ne va plus rien rester. Parce qu'il fait arriver Sef. Alors, Avadim Oshvachot écrit cette déchelle. Dans la Rechelle, la Mishnah, il y a aussi une marloquette au sujet de Avadim Oshvachot. Et eux, il n'y a pas de terrain qui va avec. C'est-à-dire, c'est où ils sont là ou ils sont pas là. Ou il y a un rappel du kavod de ta famille ou il n'y en a pas. Donc, il risque de ne pas en avoir. Obligé. On voit qu'il y a quand même une marloquette. Et là, Hitmar, en vérité, l'enseignement, faut le lire, l'expliquer différemment. Marav, Kanamarav, Marloquette de Sadeh chez Nachela. Toute la Marloquette, elle est dans un Sadeh qui ne lui appartient pas. Puisque, un jour ou l'autre, incessamment sous peu, ça va s'abîmer. Yannakama pense que, bien que ça va s'abîmer, eh bien, tu peux dire, non, mais moi, c'est le caveau de ma famille. Alors que, même pense que non. De toute façon, demain, il n'y aura plus rien. Donc, il n'y aura plus aucun rapport à ta famille. Aval, Sadeh chez là. Mais quand c'est un terrain qui lui appartient, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Parce que même si les arbres s'abîment, eh bien, il y a le shevach betavia, le respect dû à sa famille, et c'est pour cela que elle peut s'opposer à la vente, même si au final elle court à sa perte, puisque c'est bien vont s'abîmer. Amotzi otzarot anir seichto. Un homme qui a reçu des biens de sa femme, il a investi. Otzi arbe v'achal kima, kima v'achal arbe. Qu'il a investi beaucoup et qu'il ait gagné peu, ou qu'il a investi peu et qu'il ait gagné beaucoup, ça m'intéresse pas. Otzi otzi, achal achal, la brioute, c'est son problème. Donc, lui, elle, récupérera ses biens au moment du divorce, et lui, ne récupère rien du tout. Ce qu'il a profité, il a profité. Rotsi, s'il a fait beaucoup de dépenses, velo achal. Au final, il n'a pas dû profiter du tout. Ishava kamotzi veitol. Il va prêter serment combien ça lui a coûté ses dépenses, et il pourra les récupérer. On le considère à ce moment-là comme une personne qui n'a pas profité des biens, et donc, un homme qui a investi dans les biens de sa femme, on considère que, s'il a gagné quelque chose, même si c'est pas conséquent par rapport à son investissement, mais c'est pas grave, ça le dérange pas, il a été mochel. Par contre, quand il a investi sans aucun retour, rien du tout, dans ce cas-là, il dit, bon, attends, tant qu'on est marié, bon, bah, c'est la même caisse de toutes les façons. Mais aujourd'hui, quand on divorce, moi, pourquoi j'ai travaillé pour rien? Je suis pas d'accord, je veux recevoir mon argent. Donc, c'est pour ça que, Ishava, Kamaitol, Veyotzi, on le considère comme ce qu'on appelle Yored les Dechavero, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir chez moi et faire un investissement. Eh bien, moi, je t'ai rien demandé. C'est vrai que ma maison a pris de la valeur, mais je t'ai rien demandé. Je paierai seulement les dépenses. T'es pas associé avec moi, on n'est pas associé. Tu m'as pas demandé mon avis. C'était pas destiné à cette utilisation. T'as fait ce que t'en voulais. C'est ton problème. Ah, mais t'as dépensé de l'argent. Ok, je vais te le rendre. Kamakima. Donc, on te dit que s'il consomme un petit peu, on considère que il a profité des biens. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus rien demander en retour. Amaravasi afilu gourgeret. Même si c'est une figue sèche. Achat, une seule. Vous, chachala derrière kavod. À condition qu'il l'ait mangé de manière respectable. C'est-à-dire qu'il n'a pas mangé dans le champ, comme ça, il a goûté. Il a mangé. Donc, il y a eu, à un moment où il a vu un résultat, même si c'est un petit résultat, à ce moment-là, je me dis, il a été mochel. Amar, Rabbi Abba Barabi, Afilo Shigra, les tamrés. Même si c'est des dates qui sont écrasées, mais à partir du moment où il les a mangés, il a plus le droit de demander de venir récupérer ses défenses. Bay Rav Bivi, Houvtsa des tamrés. C'est les dates qu'on a écrasées et qu'on a en fait préparé pour l'utilisation de l'alcool, pour en faire de l'alcool, et puis la pâte, la de date qui reste, c'est ce qu'il a consommé. Est-ce que je considère que c'est une consommation suffisante ou pas, Teiko? Agman nous dit lo achala derer kavod. Tu dis il a consommé, mais il a pas consommé derer kavod. Ok, donc je considère pas ça comme une consommation. Maï. Mais combien ad kama c'est défini comme pas être une consommation? Amarola, Pligaba, Moraï, Bemarav. Il y a deux Moraïm israéliens qui sont pas d'accord. Khalamar, Beke, Issar, Khalamar, Beke, Dinar. Un dinar, c'est 24 fois plus qu'un Issar. C'est-à-dire que jusqu'à un Issar, je considère que c'est pas une consommation. Plus que ça, je considère que c'est une consommation. Et l'autre monde dit non, jusqu'à 24 fois plus, c'est pas une consommation. Plus que ça, c'est une consommation. Et à partir de là, il aurait perdu. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc, on a vu dans la Mishnah. Non, dans la Gemara, pardon. On a expliqué qu'une femme qui veut s'éviter les problèmes de son mari, elle peut faire don de ses biens. Si elle fait don de la totalité de ses biens, c'est évident que c'était simplement pour éviter son mari, le shtar n'a aucune valeur. Si elle fait don que d'une partie des biens, on considère que c'est oui, qu'un shtar qui a une valeur, donc elle doit se protéger en marquant qu'elle lui donne momentanément. Bien que quand on considère que le shtar n'a aucune valeur, donc il n'y a pas eu de don aux autres, et donc ça devrait être mari, mais on considère que c'est comme des biens sur lesquels le mari a été mitièche, il n'est pas au courant de ces biens-là, et c'est pour ça qu'il n'en est pas propriétaire. On a vu qu'une femme qui a reçu de l'argent, eh bien on doit protéger cet argent, on doit protéger le keren, donc il faut acheter un terrain. Machloket au sujet de perot qui sont mechoubarim, est-ce qu'on les considère comme karka ou pas? On a trois avis. Premier avis, on les considère pas comme karka. Deuxième avis, on les considère comme karka. Et troisième avis, on va encore plus dans notre considération comme karka au moment du divorce où elle récupère son terrain. Eh bien, ça fait partie du terrain et elle récupère aussi les perot. Quand il y a un échange entre le mari et la femme, quoi acheter avec ce qu'on est censé acheter, c'est-à-dire dans le cas où il y a marqué faut les vendre pour utiliser l'argent, on prendra toujours la chose qui sera le moins risquée, qui protégera le keren. Si jamais on a une behemat nirsé miloug qui a été volée, eh bien le keren sera payé à la femme puisque le mari n'a pas de droit sur péré péré. On a une marloquette au sujet d'un de nirsé miloug, d'un bien de miloug, donc ce genre de bien auquel on parle. On a vu que premier avis disait que on considérait dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit enfant d'esclave ou enfant d'animal, on considère que il n'y a pas de risque que la mère meure et donc les enfants sont définis comme des perrottes et donc ils appartiennent au mari. Et l'autre avis nous disait que non, que puisque dans l'animal et dans les deux, il y a un risque qu'elle meure. Maintenant, dans l'animal, c'est pas si grave que ça, il restera toujours la carcasse et donc l'enfant sera défini comme perrotte, il appartiendra au mari. Mais dans un esclave, on considère l'esclave comme étant à la femme, comme un keren. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que une femme qui a amené avec elle des biens qui sont faits pour être utilisés, comme pour une tonte ou comme pour le lait ou comme une poule pour faire des œufs, il pourra amortir au maximum ce bien-là à partir du moment où il restera quelque chose du keren. On a vu qu'en fait c'était le marloket. Quand il y a un bien qui est destiné à l'utilisation et qu'au final il restera quelque chose d'autre, par exemple un puits dans lequel je peux une mine dans lequel je peux tirer n'importe quel minerai qui un jour ou l'autre va se finir. D'un côté, ce minerai va se finir. D'un autre côté, il reste le terrain. Donc il reste quelque chose. Est-ce que ce quelque chose est défini comme un keren et donc tout ce que je vais en profiter est défini comme perot? Ou alors non, je définis que c'est keren et donc tout ce qui va et donc on va vendre ce terrain entièrement immédiatement pour acheter un autre terrain. On a vu qu'il y a une marloquette au sujet de avadim skenim ou etzim skenim. On a dit que l'avadim skenim c'est une marloquette, mais etzim skenim ça dépendait. Si jamais il y avait un terrain avec, alors dans tous les cas elle peut s'opposer à la vente puisqu'il y a un inyan de shvach betavia. Un mari qui a investi dans les biens de sa femme ne récupérera rien de cet investissement qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu à partir du moment où il est profité. S'il n'est pas profité bichlal, ou s'il a profité très peu, comme on l'a dit une date, mais derrière kavod, à partir de là, c'est défini comme un profit, et donc, on considère qu'il a été mochel sur toutes ses dépenses, d'affecter la voix au Hachem. N'oubliez pas de faire chazara. Faites chazara pour ne pas oublier. Et demain, les autres Hachem.